Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, la Grande Tchatch, le ravi, avec nos partenaires des 3-8, Radio Grenouille. Comme à l'accoutumée, c'est un voyage dans les cuisines de la politique régionale, avec des invités bien entendu. Le ravi, votre mensuel, c'est tous les premiers vendredis du mois dans tous les kiosques. Le ravi, c'est également un site internet sur lequel vous pouvez d'ailleurs vous abonner, n'oubliez pas. Le ravi, www.org. Aujourd'hui avec nous, monsieur Bernard de Flessel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes abonné au ravi ?
Non.
Ah ben, il faut faire, voilà. Bernard de Flessel, député de la région de Daubagne, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité.
Daubagne et La Ciotat, n'oublie.
Daubagne et La Ciotat, nous reviendrons bien entendu là-dessus. Un portrait dans cette émission, c'est un portrait, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Pour fêter l'année du Mexique, nous avons invité un soldat de l'armée mexicaine, celle formée par Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, afin de gagner la bataille des présidentielles en 2012. Bernard de Flessel, vous êtes un sacré vénard. Vous auriez pu figurer dans l'interminable liste des 200 nouveaux secrétaires nationaux. Pas du tout. Même avec votre modeste grade de délégué adjoint aux élections, partagé avec Christian Kert sous la houlette de Nadine Morano, vous pouvez vous vanter d'être l'un des 21 membres de l'équipe dirigeante de l'UMP. Le rêve. En politique, d'ailleurs, vous avez toujours du bol. Celle d'avoir pour adversaire un certain Alain Belviseau lors des législatives en 98. Jeune poulain du député PCF sortant, il vous bat d'abord avec seulement 20 voix d'avance dans la circonscription d'Aubagne, un fief communiste. Mais fraude électorale oblige, le scrutin est invalidé et vous voilà élu à 46 ans avec 56% des voix. Depuis, les électeurs vous plébiscitent. En 2007, ils vous ont même réélu une troisième fois dès le premier tour. Au fait, Alain Belviseau, votre rival malheureux, aujourd'hui mis en examen pour détournement de fonds publics dans l'affaire Alexandre Guérini, vient de démissionner de la présidence de l'agglomération d'Aubagne. Dépêchez-vous, il y a une place à prendre. Un vénard, on vous dit. Issu de l'UDF, tendance Madelin, ingénieur en informatique, parrainé par Jean-Claude Gaudin, vous avez fait vos classes au conseil régional dès 92. Après des années passées dans l'opposition à présider le groupe UMP, vous déclarez vouloir mener la campagne des régionales en 2010. Et là, encore la baraka est de votre côté. L'Élysée préfère Thierry Mariani comme tête de liste. La veine, c'est lui qui s'est pris une veste à votre place. Bernard Desflessel, vous devriez jouer au loto. Que dire de plus face à pareil succès ? Vice-président du groupe UMP à l'Assemblée, vous prenez parfois un peu de distance avec la cuisine politicienne en vous consacrant à votre marotte, l'environnement. Vous avez représenté le Parlement à Cancun lors de la conférence internationale sur le climat. Cancun, on revient au Mexique. Plutôt que de perdre votre temps à faire la campagne des cantonales, Copé devrait vous envoyer négocier la libération de Florence Cassez. Vous pourriez redonner quelques couleurs à la diplomatie française, avec un peu de chance.
Bernard de Flessel, un commentaire à ce portrait ?
Alors, je trouve que l'humour est important. Vous savez, la politique est tellement triste parfois qu'un peu d'humour, ça ne peut pas faire de mal. En tout cas, j'ai bien aimé ce portrait. Juste un commentaire sur le Mexique. Oui, j'étais à Cancun. Parce que je suis passionné par les questions d'environnement depuis fort longtemps.
Avouez que c'est plutôt agréable de défendre une cause, quelle qu'elle soit, à Cancun, quand même.
Oui, tout à fait. Même avant de m'engager en politique, j'étais passionné par les questions d'environnement. Et ça fait maintenant 4 ans, la quatrième année, que pour le Parlement, je suis les relations internationales et en particulier les négociations sur les sommets climatiques. J'étais à Copenhague, j'étais à Cancun. C'est passionnant. C'est passionnant parce que bon, c'est l'avenir de la planète. Hein. Chacun le comprend. Hein. Et donc, il y a tellement d'affaires que ça vous extrait un peu du marigot politique habituel. Et puis, c'est une très belle cause. Mais le Mexique a d'autres attraits. Est-ce que vous vous rappelez de Cameron ?
Oui.
Voilà, Cameron, c'est
vous
la Légion.
De d'Aubagne.
Voilà, vous avez tout compris. En 1863,
on ne
vous refais pas l'histoire,
ici.
Mais les légionnaires, soit ils étaient 60, tenir tête à 2000 Mexicains à Cameron. Et nous fêtons ça tous les 30 avril de chaque année.
C'est pas le nombre d'UMP qu'il y a dans la région d'Aubagne, quand même. Vous êtes un peu plus nombreux que ça.
Les 2000.
Restons dans l'international avec la diplomatie française qui est empêtrée un petit peu dans les affaires. On a parlé du Mexique avec Laurence Cassez. La ministre des Affaires étrangères, dans ses voyages et ses achats immobiliers, l'affaire de l'ambassadeur New Age, un petit peu particulier ce monsieur. Un commentaire là-dessus ?
Oui, bah c'est compliqué, c'est difficile, mais il ne faut pas faire trop d'amalgame. Sur Florence Cassez, d'abord, j'entendais ce matin ses parents qui étaient les invités de France Info, qui réexpliquaient son histoire, qui réexpliquaient que, je dirais, tout cela est d'une grande injustice. Et donc, je crois que le président de la République a eu raison quand même de prendre sa défense, alors même si on a fait un clash avec le Mexique. De temps en temps, il faut affirmer des principes. Cette fille est condamnée à 96 ans de prison. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Alors, ça a été ramené à 60 ans aujourd'hui. Enfin, bon, quand même, quoi. Je veux dire, bon, donc, c'est compliqué. Alors, certains disent « vous en faites trop », d'autres disent « vous n'en faites pas assez ». Bon, la ligne à tenir est toujours très, très délicate.
Le résultat, aujourd'hui, elle est toujours en prison avec ses 60 ans. Oui, il y a un incident diplomatique avec le Mexique.
Oui, mais il faut reprendre les choses dans l'ordre. On a retrouvé une lettre signée du président Calderón qui dit au président de la République, elle a été publiée dans la presse il y a 2-3 jours je crois, qui dit la chose suivante, qui dit, une fois tous les recours passés, y compris celui à la cour de cassation au Mexique, si elle est toujours condamnée, elle pourra bénéficier de la clause de renvoi dans son pays et donc de faire son temps de prison dans son pays d'origine. Ça, c'était marqué noir sur blanc et c'est signé du président Calderón. Et donc, nous, ce que nous demandons tout simplement, c'est que cette clause s'applique. Donc, vous voyez qu'on n'a pas tous les torts non plus de ce point de vue-là.
Enfin, qu'un ministère montre son indépendance, en l'occurrence celui de la justice mexicaine, oui. C'est plutôt une bonne chose, parce que les choses ne se passent pas entre président et président.
Oui, bien sûr aussi, mais bon, il y a eu un engagement de prix par le président de la République du Mexique.
Il y a quand même du flottement au niveau de la diplomatie française, avec ce qui se passe aussi au Maghreb, dans le monde arabe, la réelle politique, la place de la France, on a l'impression que c'est...
La réelle politique, ça ne veut pas dire grand-chose. Reprenez les débuts de la Ve République. Charles de Gaulle, le président de la République, disait quoi ? Disait simplement qu'il faut s'adapter aux réalités du temps. Et donc, c'est vrai que nous n'avons pas vu, mais quand je dis nous, c'est tous les Européens et même un peu les États-Unis, nous n'avons pas vu arriver ce choc, cette vague finalement qui touche le Maghreb aujourd'hui. Et donc, je dirais que la France n'est pas plus mal placée que les autres de ce point de vue-là. Regardez par exemple sur l'affaire de la Libye en ce moment. Le président Obama vient simplement de s'exprimer. Il s'est exprimé hier, alors que tous les pays européens, eux aussi, se sont mis en branle pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé en Libye. Donc, je veux dire, c'est complexe. Certains n'avaient pas vu arriver la chute du mur de Berlin en 89. Aujourd'hui, eh bien, les pays de l'Union européenne n'ont pas vu non plus le choc en retour au niveau du Maghreb. Et donc, je crois qu'il faut être très modeste. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aujourd'hui en disant « on aurait dû faire ceci, on aurait dû voir cela, etc. » Oui, en général, ces gens-là ou ne font rien ou se sont souvent trompés. Donc je crois qu'il faut rester les deux pieds dans la réalité.
Mais la stature présidentielle de Nicolas Sarkozy, c'est quand même sa prérogative. L'international semble écorné.
Écorné, pourquoi ? Ben, je n'ai pas la langue de bois. Parce que, bon, c'est vrai que Michel Alliot-Marie a fait une erreur, c'est clair. Elle a fait une erreur que d'aller prendre ses vacances entre Noël et Jour de l'An dans un pays où les choses bougeaient, et en plus invitée par le gouvernement, un gouvernement étranger. Ça doit plus se reproduire, c'est clair.
D'accord. Il n'y a pas trop de regrets. On recevait il y a quelque temps de ça Arlette Fructus qui s'orgueillait de recevoir Ramayad au sein de son mouvement. Ramayad qui, je le rappelle, détenait le secrétariat des droits de l'homme. Secrétariat qui a été supprimé par Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas un regret aujourd'hui ? Il n'aurait pas été utile ce secrétariat des droits de l'homme ?
Mais écoutez, Ramayad a fait des déclarations. Bon, elles sont très souvent médiatiques.
Les déclarations qu'elle a faites sur Kadhafi sont pas... perspective, elles ne sont pas mauvaises.
Oui, mais je vais juste mettre un bémol. Pourquoi M. Kadhafi est venu à Paris en 2007 ? Pourquoi est-il venu ?
Pour le business ?
Non, pas simplement pour le business. C'était le pendant de la libération des infirmières bulgares. Tout le monde l'a oublié, mais c'est la France qui était en pointe à ce niveau-là. Alors on peut toujours nous donner des leçons, on peut toujours nous dire « vous ne faites pas assez, vous avez perdu finalement le fil de ce qui fait la politique française, c'est-à-dire l'universalisme, etc. » Sauf que c'est le président de la République, c'est Nicolas Sarkozy, c'est l'État français qui, à l'époque, a mouillé la chemise pour sortir les infirmières bulgares qui étaient elles aussi de Libye, qui étaient elles aussi bien sûr tout à fait blanches dans cette affaire. Bon, et donc c'est ça aussi la politique de la réalité. Donc attention, donneur de leçons.
Bianco, qui est un élu de la région, le disait hier sur France Inter, l'universalisme se perd, vous l'avez dit également ici. C'est quoi aujourd'hui quand on parle d'universalisme avec un gouvernement de Nicolas Sarkozy? C'est de l'ordre de l'incantatoire? Ça n'a plus aucun sens? Ou...
Non, pas du tout.
Ou est-ce qu'il faut remettre ça?
Je crois que je viens de vous faire la démonstration qu'en 2007, c'est la France qui était en pole position, passez-moi l'expression, un peu triviale d'ailleurs, pour aider et pour peser sur la libération des infirmières bulgares. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc je crois qu'on condamne un peu vite la diplomatie française. Il y a eu une erreur, c'est clair. On n'y revient pas, c'est celle de la ministre des Affaires étrangères. Il y a eu aussi un manque de visibilité, mais ça c'est dû, je dirais, au fait que le choc a été brutal, c'est ce jeu de dominos qui est en train de se produire dans les pays du Maghreb, et ça touche tous les Européens bien évidemment, et même les Américains, ou en particulier pour M. Barack Obama.
Alors un mot sur la fameuse armée mexicaine de Jean-François Copé, d'ailleurs il assume, je crois que c'est lui qui a lancé l'expression, en disant, bah oui, 200 secrétaires nationaux, tant mieux, on maille le territoire. Oui. On a un peu l'impression que là, il s'agit de faire plaisir un peu à tout le monde, de serrer les rangs d'une majorité pléthorique. Est-ce que ce n'est pas au détriment de l'efficacité? Il y a 50...
Non, je ne le crois pas. On a bien réfléchi à l'organisation de l'UMP et du parti présidentiel. Quelle est l'idée? On a fait une équipe resserrée de direction, c'est ce que vous avez mentionné tout à l'heure, avec quatre pôles. Le pôle des fédérations, le pôle des élections, le pôle de la formation, le pôle du projet. Ça, je crois que c'est l'ossature, la colonne vertébrale de l'UMP. Et puis ensuite, on a voulu multiplier les missions, car des secrétaires nationaux, il y en avait avant. Là, il y en a un peu plus, mais par exemple, prenons un exemple simple, un sujet que je connais bien, la défense. Vous mettez quelqu'un qui est secrétaire national à la défense, c'est un sujet éminemment vaste. Aujourd'hui, eh bien, il y a plusieurs répartitions des rôles. Par exemple, il y en a un qui va suivre les questions de l'OTAN, l'autre qui va suivre les questions industrielles de défense, un troisième qui va suivre les questions relatives à l'Europe de la défense. Donc je dirais, chacun prend, entre guillemets, un portefeuille de façon à bien s'en occuper. Alors qu'avant, finalement, on avait des chantiers qui étaient très vastes, mais qui, puisque les journées donc 24 heures, qui étaient trop importantes pour un seul homme ou une seule femme. Donc je crois que c'est une volonté affirmée que de se répartir les choses et d'être de façon à être plus efficace. Alors on verra. Ne condamnons pas le système avant qu'il ait donné toute sa mesure.
Vous avez pris l'exemple de la défense. On y réfléchit au sein de l'UMP de manière détaillée. En même temps, au gouvernement, on supprime le secrétariat aux anciens combattants.
Oui, non, mais là, on peut pas avoir tout et son contraire. Okay. Tout le monde dit qu'il faut un gouvernement resserré. Très bien. Alors, on fait un gouvernement resserré, et quand on fait un gouvernement resserré, on nous dit « Ah, mais vous allez supprimer les secrétaires d'État ». Il faut savoir ce que l'on veut.
Délégué aux élections, alors ça veut dire quoi? Ça recoupe quoi comme compétence?
Tout simplement,
dans la cuisine électorale.
Préparer. Le mot cuisine a des relents qui, c'est passez-moi l'expression.
Parfois, ça sent bon.
Oui, ça, même souvent, je suis.
Pour Monsieur Morin,
je suis
même
un épicurien, donc.
C'est même vendeur.
J'aime bien la cuisine et en particulier française. Non, plus sérieusement, ça recoupe, si vous voulez, très simplement l'organisation des élections et surtout, ce qui est un peu nouveau, c'est la détection des candidats à venir. On a besoin de régénérer la vie politique, on a besoin de trouver de nouveaux talents. Eh bien, notre rôle, c'est, dans le pôle élection, avec le pôle formation, d'aller détecter de nouveaux candidats un peu partout dans toute la France, ensuite de les former et de faire en sorte que, bien, dans quelques années, ils portent les couleurs de notre mouvement.
On a l'impression que ça ne va pas être facile, cette campagne. Alors, il y a les cantonales, on va en parler dans une deuxième partie, mais tout le monde pense déjà aux présidentielles.
Un peu trop tôt d'ailleurs, à
oui,
mon sens.
Mais c'est bon. Dans les pensées. Ça va être quoi les grands thèmes on a l'impression que Nicolas Sarkozy nous rejoue le coup du débat sur l'identité nationale avec le débat sur l'islam, les questions de sécurité. Est-ce que ça va être omniprésent tout ça?
En même temps, Nicolas Sarkozy précise...
Les amalgames, immigration, insécurité.
Nicolas Sarkozy précise aux téléspectateurs, cette année doit être utile aux Français. Alors, oui. Ça veut dire quoi? Utile aux Français et en même temps,
ça veut dire que...
lancer des thèmes sur la sécurité.
Je vous rappelle qu'on est sous la forme d'un quinquennat aujourd'hui, donc c'est 5 ans. Quand vous prenez le pouvoir, vous mettez pratiquement 6 mois à vous installer. Si un an ou un an et demi
Nicolas
avant...
Nicolas Sarkozy a été ministre de l'Intérieur très longtemps.
Oui, mais quand même, président de la République, c'est président de la République. Alors, ça, on ne va pas chipoter si c'est 3 mois, 4 mois, peu importe. Et puis, si vous levez le pied un an ou un an et demi avant la fin du quinquennat, finalement, vous n'aurez été au service des Français que pendant 2 ans et demi. Ça, ce n'est pas possible. On est dans un monde moderne, dans un monde qui bouge, et les Françaises et les Français veulent de l'action. Donc, l'idée de dire « il faut que 2011 soit une année utile », ça veut dire que tout le monde doit être au boulot, que jusqu'au dernier moment, eh bien, chacun doit assumer son mandat, les réformes dont a besoin le pays, le président de la République y compris. Et je fais un parallèle avec la gauche qui, en face, pour l'instant, n'a aucune idée et n'a que comme ambition de choisir son candidat. Donc, c'est une bataille de personnes. Vous vous rendez compte que ça va occuper toute l'année 2011, puisque je crois de mémoire que le candidat socialiste sera choisi le 16 octobre. Ça veut dire que jusqu'au 16 octobre, il va y avoir un combat de personnes, tout le monde l'a bien compris d'ailleurs, je dirais, il ne faut pas être grand clair pour comprendre tout cela, au Parti socialiste, alors que nous, eh ben, on estime que nous devons être au service des Français jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'année 2011. Et puis après, le président de la République se déterminera en fin d'année ou en début d'année. Et puis ensuite, il y aura la campagne présidentielle. Regardez Mitterrand. Mitterrand, dans son deuxième mandat, qu'est-ce qu'il fait? Il se déclare très, très tardivement. Il se déclare 2 mois et demi ou 3 mois avant l'élection présidentielle. Donc, je veux dire, c'est normal. Il faut continuer à réformer le pays.
Mais la séquence est quand même difficile pour le gouvernement. On vient de parler des fluctuations dans la diplomatie avec des diplomates qui ne sont pas contents. On a vu la fronde des juges. Reprochant au président d'instrumentaliser politiquement des faits divers, alors que les moyens pour faire fonctionner la justice, semble-t-il, sont pas vraiment au rendez-vous. Ces compagnies de CRS faire la grève de la faim. On a l'impression, y compris sur le thème des pouvoirs régaliens de l'État, les troupes se rebellent.
Mais écoutez, je vais vous dire.
L'armée mexicaine.
Il faut savoir ce que l'on veut. Nous avons un problème en France, mais pas qu'en France d'ailleurs, en Europe également, sur notre endettement. La France, malheureusement, depuis 1974, n'a pas été capable de faire un budget en équilibre. Vous imaginez si les foyers français devaient faire cela. Ça veut dire que la France vit à crédit depuis 35 ans. Bon. Donc à un moment, il faut que ça cesse, à un moment, et la crise financière en a été le révélateur, à un moment, il faut que nous réduisions nos déficits, et que nous réduisions notre dette. Pour ce faire, eh bien, il faut réduire malheureusement le format de la puissance publique et de nos administrations.
Y compris dans la justice, la police.
Alors attendez, je vais répondre là-dessus. L'effort que l'on fait depuis 3 ans en disant on remplace pas un fonctionnaire sur deux, c'est pas pour taper sur les fonctionnaires, c'est simplement parce que le poids du secteur public en France est beaucoup plus important que dans d'autres pays. Si on se compare à l'Allemagne, aux États-Unis, au Japon, etc., on s'aperçoit qu'on a un secteur public qui pèse.
C'est ce même secteur public qui a permis d'amortir un petit peu la crise.
Absolument, mais vous avez raison, j'en disconviens pas. Mais à un moment, il faut donc que les Français comprennent. Parce qu'ils nous disent tous les jours, il faut réduire la dette, en particulier la gauche, il faut réduire la dette, il faut réduire les déficits, et dans la même seconde, dans le même souffle, ils nous disent, mais il faut plus de policiers, il faut plus d'infirmières, il faut plus de magistrats, il faut plus de pompiers, etc. Donc il y a un moment, une schizophrénie qui est extraordinaire. Donc ce que nous faisons, nous, c'est que nous essayons de réduire tranquillement, des pans qui sont un peu moins, exposés au service public, de façon à réduire un peu la dette et puis de protéger les générations à venir. Enfin, c'est notre rôle. Vous vous rendez compte que depuis 35 ans, on n'est pas foutu de faire un budget en équilibre.
Alors, comment un président peut dire il faut une justice plus efficace, police plus efficace, il faut lutter contre l'insécurité.
Je vais vous répondre sur la justice. Sur la justice, je ne l'entends pas suffisamment. Ce qui est dommage, c'est que c'est un des seuls budgets qui est en hausse. Par exemple, le budget 2011 sur la justice est en augmentation de 4,3%.
Non, mais les procédures, augmentent également.
Personne ne le dit. Quand les magistrats nous disent on n'a pas assez de moyens, peut-être, j'en disconviens pas. Mais il faut savoir que c'est le seul budget avec celui de l'université qui n'a pas été en valeur zéro cette année. Et qu'il a été en augmentation de 4,3%. Et que si on reprenait les chiffres, ça serait trop long, du nombre de magistrats depuis 2007 qui ont été embauchés, de greffiers, etc., vous verriez qu'il y a eu un effort sur le budget de la justice. C'est vrai qu'on vient de très loin et qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais il n'y a pas simplement qu'un problème de moyens. L'affaire Outreau, ce n'est pas un problème de moyens. Enfin, ça a révolutionné la France, l'affaire Outreau. Bon, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Les Français, si vous voulez, pourquoi ils ont une mauvaise image de leur justice? C'est ce qu'on voit dans les sondages, en tout cas, c'est ce que je ressens. C'est pas simplement parce qu'elle n'a pas assez de moyens, c'est parce qu'ils doutent un peu. Bon, et quand on voit l'affaire
Outreau... C'est surtout Outreau, parce qu'il y a une lenteur et
oui,
qu'il n'y a pas assez de
personnel. Oui, mais quand on voit
l'affaire
Outreau, c'est pas un problème de lenteur. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a été envoyé 3 ans en prison pour rien, quelqu'un qui s'est suicidé, quelqu'un qui a perdu son emploi, etc., dans l'affaire Outreau, et que le juge, derrière, a juste une réprimande. Attendez, il ne peut pas y avoir des catégories de Français qui ne soient pas responsables. Tout le monde est responsable. Les élus sont responsables, les policiers sont responsables, le postier au guichet est responsable s'il fait une erreur. Il faut que les juges acceptent aussi qu'ils puissent être mis, je dirais, devant leurs responsabilités. Et c'est ça que ne comprennent pas bien les Français. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il faut qu'on fasse un effort, très nettement. Mais si, aujourd'hui, l'argent public est contraint. Donc c'est,
tout ça, c'est des décisions compliqué. Qui clivent quand même la société française.
Bah, c'est ça pas... clive. Le souci ne vient pas de 2007 ou de 2008. Hein. Il est latent depuis de nombreuses années. Hein.
Mais quand Hortefeux se déplace à Marseille suite à un tragique fait divers dans une cité en promettant de nouvelles forces de police des compagnies CRS et puis quelques semaines après... On annonce finalement, ça s'est pas fait,
oui,
la suppression d'un régiment.
C'était pas la suppression, c'était un redéploiement.
C'est quoi ça? C'est une erreur de communication ou alors c'est un indice d'une inconséquence entre un discours va-t-en-guerre et finalement une gestion de la pénurie financière.
C'est pas une inconséquence, c'est quand même assez intéressant de se comparer à l'extérieur. L'un des petits défauts des Français, c'est qu'on est un peu frileux, qu'on a du mal à s'ouvrir sur le monde extérieur et qu'on a du mal à se comparer. C'est intéressant. Les Anglais appellent ça le benchmarking. On se compare aux autres. Quand on regarde le nombre de policiers et de gendarmes en France, grosso modo, une centaine de milliers de gendarmes, un tout petit peu plus de policiers, par millier d'habitants, on s'aperçoit qu'on a un ratio qui est un des meilleurs en Europe. Bon, donc, je dirais, là aussi, on demande à nos forces de l'ordre de se redéployer un peu mieux sur le terrain, de faire un peu moins d'administratif, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si on soutient les forces de l'ordre. En tout cas, c'est ce que je fais, moi, évidemment, tant que je le peux dans ma circonscription, de façon à les protéger, parce qu'ils ont une mission extraordinairement difficile, tout le monde le comprend bien.
Vous êtes plutôt adepte des caméras de surveillance, d'ailleurs.
Oui. Alors, adepte, je vais vous répondre là-dessus. C'est un des outils. La caméra de surveillance, la vidéoprotection, comme on l'appelle, ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas avec ça qu'on va régler définitivement le problème de l'insécurité. Mais c'est un des outils. Et je ne comprends pas les maires de gauche, alors certains, hein, pas tous, mais qui disent « non, il n'en est pas question, on va fliquer la société, etc. » C'est de la rigolade.
Ça met toujours des hommes en moins sur le terrain, une caméra.
Ah, pas du tout, non, c'est en plus. C'est en plus, ça n'a rien à voir.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, et il faut bien, les budgets ne sont pas extensibles à l'infini. Bah, si on crée des caméras, on ne va pas créer des postes de policiers supplémentaires.
Mais
ça veut dire... Le choix, il n'est pas entre l'un et l'autre. Le choix, c'est une complémentarité des moyens. Ce n'est pas la même chose. Donc je ne comprends pas pourquoi on repousse d'un revers de main, enfin certains maires de gauche repoussent d'un revers de main sous prétexte qu'on va fliquer la société. C'est les gens de bonne foi, ils n'ont pas peur des caméras. Moi, si on me demande d'ouvrir mon coffre pour regarder ce qu'il y a dedans, ça ne me pose pas problème. Si on me demande ma carte d'identité, ça ne me pose pas problème. Et l'immense majorité des Françaises et des Français, ça ne leur pose pas problème. Donc la caméra, ça sert à quoi? Pas à fliquer les gens, simplement, on vient de le voir tout récemment d'ailleurs, il y a eu un exemple qu'on a vu à la télévision aux 20h, ça permet de détecter des mauvais coups, des malfrats, et ça donne un tout petit peu plus de possibilités à la police ou à la gendarmerie que d'identifier les malfrats, voilà. Et donc je trouve que c'est très bien. Et oui, j'encourage moi les maires dans ma circonscription, je les aide financièrement à mettre en place des réseaux. Et bien ça fonctionne bien.
Alors on a vu que les caisses de l'État étaient vides et paradoxalement, on veut faire des économies. En tout cas, Nicolas Sarkozy veut supprimer l'ISF, 300 000 personnes. Pourquoi?
Écoutez, ce que l'on veut faire...
C'est une manière de cliver assez brutalement.
Pas du tout. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir le problème. L'outil de la fiscalité aujourd'hui, dans un monde moderne, c'est un outil important qui peut peser sur l'économique. Et sur les ménages français. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons revisiter un petit peu notre fiscalité. Ça sera fait au mois de juin. Il y aura un collectif budgétaire et il y aura un texte pour le mois de juin. L'idée étant, alors peut-être pas complètement de supprimer l'ISF, hein, c'est pas encore tranché, mais du moins de l'alléger en particulier pour des classes moyennes supérieures qui, injustement, finalement, sont frappées à travers leur résidence principale. Vous avez une résidence principale, vous avez mis 20 ans de votre vie à l'acheter. Par le fait de la hausse de l'immobilier, elle a pris de la valeur. Vous n'en tirez pas de profit puisque vous ne la louez pas. Par définition, vous l'habitez. Et donc, vous êtes frappé à l'ISF parce que vous avez un bien qui a pris de la valeur et qui est un bien que vous avez acquis par la force de votre travail. C'est un peu injuste. Bon. Donc l'idée, ça serait par exemple, il y a plusieurs pistes, d'abord de supprimer le bouclier fiscal, et peut-être, parce que c'est le couple, si vous voulez, bouclier fiscal d'un côté, ISF de l'autre, et de façon peut-être à revisiter l'ISF, alors remonter peut-être les tranches, supprimer la résidence principale, faire des dégrèvements sur la résidence principale. Bon, on est en train de réfléchir à cela. L'idée étant finalement d'alléger la facture pour des classes moyennes ou des classes moyennes supérieures qui sont frappées, je dirais, de façon aveugle. Et je finirai par là, mais il n'y a plus un pays qui a l'ISF.
Oui.
Il n'y a plus un pays qui a l'ISF. L'impôt sur la fortune, en Europe, c'était une ancienne qui était développée. Le dernier, même la Suède, vient de le supprimer. Et donc, je dirais, si on veut avoir une vraie compétitivité par rapport à nos autres pays, il faut qu'il y ait une certaine harmonisation. Et notre idée aussi, c'est de se rapprocher de l'Allemagne et d'essayer de coller à l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est l'économie, je dirais, la plus florissante en Europe. Deuxièmement, c'est notre premier partenaire commercial. Et troisièmement, on sait que le tandem franco-allemand, quand il marche bien, eh bien, c'est un moteur pour l'Europe. Et donc, l'idée, là, on va avoir le rapport de la Cour des comptes, on va avoir des rapports, c'est de regarder comment on pourrait faire un chemin parallèle avec l'Allemagne, pas que faire du copier-coller, mais au moins faire une certaine harmonisation de notre fiscalité par rapport à notre premier concurrent, notre premier partenaire, et puis le pays qui est en Europe, finalement... je dirais, celui qui fonctionne le mieux. Donc là, il y a un travail de tuilage pour essayer d'être plus compétitif.
Dernier point d'actu national avant d'arriver plus sur le local. Vous n'avez pas réagi tout à l'heure sur cette idée du président de la République d'initier un débat sur la place de l'islam en France. Est-ce que c'est bis repetita, le coup du débat sur l'identité nationale, qui n'a pas été franchement une réussite, ça a plombé les BNP au régional, ça a favorisé des dérapages au sein de la droite, certains ont déploré. Est-ce que c'est une stratégie qui a pourtant fait preuve d'un certain échec ?
Alors, on peut regretter le débat, ou du moins regretter la forme qu'il a pris. C'est pas un débat sur l'islam qu'on veut faire.
Ah, si.
C'est un débat sur la laïcité. C'est pas
entendre Monsieur Copé, c'est laïcité versus islam.
Non. C'est un débat sur la laïcité. C'est de rappeler très simplement les règles de notre République laïque vis-à-vis des religions. Donc c'est un débat un peu plus large. On ne veut pas stigmatiser les Français issus d'immigration en particulier, ou qui ont une religion qui est la deuxième de France. Mais il est clair qu'il faut, je dirais, revisiter tranquillement, simplement, le fait que la France est un pays
On peut avoir ce genre de débat tranquillement.
Moi, je le pense. Moi, je suis capable de le tenir.
Comment il va
en tout
se
cas.
Passer ? Parce que la dernière fois, ça a ouvert un petit peu la boîte à Pandore. Il y a eu des dérapages. Jean-Claude Godin a largement dérapé.
Il s'est trompé. Vous savez, je l'ai vécu un petit peu alors de l'extérieur, mais je l'ai vécu quand même. C'est vrai que c'était suite à un match de foot entre l'Égypte
et
l'Algérie. Et on a vu défiler, se déverser sur le Vieux-Port une dizaine de milliers de personnes avec des drapeaux algériens, etc., avec des t-shirts disant l'Algérie mange la France, etc. Bon, donc ça l'a ému, je dirais. Faut mettre ça aussi sur le compte de l'émotion. On peut pas faire le reproche à Jean-Claude Godin de ne pas avoir, dans sa municipalité depuis 15 ans, fait en sorte d'apaiser les choses, d'apaiser les tensions, etc., etc. Non. Je crois qu'on
Il
peut avoir...
Il s'agissait surtout de gens qui faisaient la fête suite à une victoire de...
Oui, mais enfin, bon, faire la fête simplement en revendiquant deux, trois choses qui heurtent un peu les Françaises et les Français, il faut faire attention. Donc on peut avoir un débat très calme, très simple, autour de la laïcité pour revisiter très simplement les règles.
C'est pas le genre de débat qui est plutôt confié traditionnellement à des intellectuels.
Oui,
c'est les politiques qui sont toujours assujettis à un échéancier électoral, on peut facilement tomber dans...
Mais vous avez raison, je crois qu'il faut que les intellectuels s'en emparent. Et soit, je dirais, passez-moi l'expression, en première ligne là-dessus. Oui, moi, je suis plutôt d'accord.
Parlons franchement. Est-ce qu'il y a pas
est-ce qu'on parle pas franchement
non, allons plus clairement dans les choses. Il y a eu une volonté.
On n'est pas clair non plus.
Nicolas Sarkozy a gagné les présidentielles en siphonnant en partie la thématique du Front National, en répondant à certaines attentes de son électorat. Est-ce que, sans arrêt, en remettant ce type de problématique immigration, sécurité, islam sur la table, est-ce qu'il ne s'agit pas de faire du pied à cet électorat-là à un moment où le Front National se restructure, où Marine Le Pen est donnée très haut dans les sondages, mais est-ce que ce n'est pas un piège pour l'UMP de se positionner sur ce terrain-là?
Non, je ne crois pas. Je crois que le
ça a marché un temps. Est-ce que c'est maintenant,
non,
est-ce que ça devient pas un piège?
Le seul chemin qui doit nous guider, c'est celui de répondre, parce que c'est quand même ce pourquoi, en effet, les hommes politiques se répondent aux aspirations des Françaises et des Français, de nos concitoyens. C'est ça qui doit nous guider. Et je ne pense pas que les thèmes de l'immigration et de la sécurité seront les seuls thèmes de la campagne présidentielle. Ne vous trompez pas là-dessus. Ne focalisez pas là-dessus. Ça fera partie, bien sûr, d'un pacte républicain, d'un pacte présidentiel. Mais il y aura toute une autre série.
C'est un peu du réchauffé, ça, non?
Non, mais ça fait
arriver en 2012 avec des thématiques qui sont récurrentes à chaque élection présidentielle.
Mais je suis désolé, cher ami, mais c'est les Français qui le mettent en avant également. Hein, les problèmes de sécurité, les problèmes d'immigration font partie du déjeuner familial dans toutes les familles de France. Bon, bah oui, on en parle. Alors je dis pas que ça fait 90% du débat, mais ça en fait partie. Mais pas seulement. On va parler des problèmes économiques, on va parler des problèmes d'avenir, on va parler des problèmes d'université, on va parler des problèmes de jeunesse, on va parler des problèmes évidemment de la crise économique et de comment en sortir définitivement. Il y a toute une série de choses. On va parler des problèmes d'endettement, de fiscalité. Non, c'est dans une élection présidentielle, tous les thèmes sont abordés.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille. On reçoit aujourd'hui Bernard de Flessel, député d'Aubagne-la-Ciotat.
Michel Guéraud. Vous n'êtes pas membre de la droite populaire fondée par Thierry Mariani. Pourtant, il y a beaucoup de députés de la région qui le sont. Est-ce que ça veut dire que vous marquez une distance avec la droite populaire? C'est un collectif, disons, de droite très décomplexé qui porte justement toutes ces thématiques.
Celle qui n'hésite pas à avoir une certaine porosité, ou qui souhaite une certaine porosité, en tout cas, avec le Front National.
Je vais faire un aveu, je n'ai pas l'air complexé. En tout cas, je le souhaite. Donc, je n'ai pas besoin d'être décomplexé. Non, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Bon, il y a une trentaine de députés en France dans le groupe. Vous savez, moi, je ne suis pas trop fractionniste.
Peut-être plutôt prudent.
Non, c'est pas du tout.
Aujourd'hui, vous tarissez pas d'éloges sur Copé. Hier, c'était Bertrand.
Non, pas du tout. Je fonctionne pas comme ça. Non. Je sais pas si vous m'avez entendu tarir des éloges, ne pas tarir d'éloges sur Xavier Bertrand et Jean-François Copé. Je crois que ce sont des hommes de devenir. Et donc,
il y en a un qui est plus en devenir que l'autre.
Vous pensez à Jean-François Copé?
Je vous laisse la réponse.
Ah ben, voilà. Moi, j'ai eu le bonheur de travailler avec lui pendant 3 ans et demi, puisque j'étais son deuxième vice-président en groupe. Donc, j'ai appris à découvrir l'homme. Je ne le connaissais pas avant, puisqu'on n'était pas issus de la même famille. Moi, je suis issu de l'UDF et lui était issu du RPR. Donc, j'ai appris à le connaître, j'ai appris à travailler avec lui. Il m'a demandé de venir dans l'équipe dirigeante de l'UMP. J'ai dit banco, il n'y a pas de souci. Mais Xavier Bertrand m'aurait proposé la même chose. Je l'aurais fait. Non, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Je ne suis pas complexé. Je mène mon chemin tranquillement, en respectant mes valeurs et mes fondamentaux.
Les Mariani, les Lucas, ce collectif, ils poussent le bouchon un peu trop loin pour vous?
Non, pas du
ça
tout.
Fait
non,
vivre,
je pense pas. Non, pas du tout. Non, mais que de dire que... Vous savez, l'UMP est un grand rassemblement. Vous avez des centristes, vous avez des radicaux, vous avez des gens issus comme moi de l'UDF, vous avez des gens issus du RPR, du gaullisme social. Je dirais, bon, c'est une mosaïque et c'est ce qui fait finalement...
Enfin là, il y a quand même un particularisme qui est vraiment très extrême. Les députés du Sud, Ciotti, on peut décliner la moitié du Var et des Alpes-Maritimes.
Mais c'est souvent...
Ils sont quand même cantonnés à une thématique très particulière.
Mais c'est souvent des députés ou des élus qui l'ont été contre le Front National. Vous ne voulez pas que je vous refasse l'histoire de M. Mariani dans le Vaucluse, qui s'est toujours heurté à M. Bompard et qui l'a toujours battu.
Il faut rappeler aussi l'histoire d'Estrosi qui appelait ouvertement à l'alliance au conseil régional avec le Front National.
Moi je ne l'ai pas vécu, hein. En tout cas,
j'ai
été un acteur. C'est pas Christian Estrosi, pas du tout.
C'est le monsieur Léotard qui à l'époque s'était opposé à l'alliance que suggérait fortement monsieur Estrosi.
Et moi aussi, mais c'était pas Christian Estrosi.
Est-ce qu'un scénario à l'italienne, si Marine Le Pen finalement donne des gages un petit peu de bon comportement, afin de lissage de son discours. Est-ce qu'un scénario à l'italienne de l'UMP s'alliant avec le FN est souhaitable ?
Sûrement pas. Elle n'est ni souhaitable ni faisable. Sûrement pas. Et en tout cas, Marine Le Pen, c'est son père. Hein, arrêtons de fantasmer, mais oui, bien sûr, arrêtons de fantasmer sur cette idée qu'elle serait, parce que c'est une femme plus ouverte, etc. C'est exactement la même thématique, vous le voyez là, en ce moment, depuis qu'elle est élue présidente, c'est exactement à la même ligne que son père, ne vous y trompez pas.
Un mot peut-être sur des échéances électorales qui arrivent, les cantonales en l'occurrence. Comment ça se passe au niveau d'Aubagne ? Vous avez des...
Moi, dans ma circonscription, j'ai deux cantons qui sont renouvelables. Je rappelle pour nos éditeurs que c'est la moitié des cantons en France qui sont renouvelables, et cela pour 3 ans. Moi, dans ma circonscription, dans la 9e circonscription des Bouches-du-Rhône, j'en ai 2 qui sont renouvelables. L'un qui est le canton de La Ciotat et de Serrest. C'est Patrick Boré qui porte nos couleurs, le maire de La Ciotat, qui est sortant d'ailleurs, qui a été élu en 2004. Et l'autre, c'est le canton du Centre. Qu'on appelle d'ailleurs Aubagne-Est à tort, je vais vous dire pourquoi, qui représente Gemnos, Cuges, Roquefort-la-Bédoule, Carnoux et Cassis. Et un tout petit bout d'Aubagne qui pèse peut-être 5% dans le canton. Donc on l'appelle Aubagne-Est, c'est à mon avis une erreur d'interprétation. Voilà, et c'est Roland Giberti, le maire de Gemnos, nouveau centre. Oui. Qui portent nos couleurs là aussi, et ces deux amis, parce que ce sont des amis très proches, ont évidemment mon total soutien.
Alors on annonce un taux d'abstention record à ces élections, les gens identifient mal les raisons de ce scrutin, en plus il y a une réforme là, territoriale qui va supprimer sous sa forme actuelle le département, c'est les élus qu'on va désigner vont l'être pour 3 ans.
Alors, prenons les
dire aux gens pour qu'ils aillent voter là, est-ce qu'il y a un enjeu ?
Prenons les choses dans l'ordre. On annonce un taux d'abstention record. On n'en sait rien. On verra le moment venu.
Il y aura 30 à 38% de participation. Hein.
On verra. C'est vrai qu'il risque d'y avoir un taux d'abstention important. D'abord, pour la première fois depuis 1994, ces élections cantonales ne sont pas couplées à d'autres élections. Avant, elles étaient couplées ou au régional ou au municipal, ce qui donnait un engouement, ce qui tirait finalement les élections vers le haut. Et là, elles sont seules. Donc, les gens ont du mal un peu à identifier une élection cantonale, un canton, etc. Donc, c'est ça, en fait, qui risque de peser un peu dans le taux de participation. Ensuite, nous verrons bien. Ils sont élus pour 3 ans, puisqu'après, comme vous l'avez indiqué, il y a une réforme importante de fond qui verra le jour en 2014 et qui finalement restructurera un peu les compétences des uns et des autres.
Ça sert à quelque chose encore, un conseiller général, là, pour les 3 ans à venir. C'est pas plutôt
bien sûr.
Un mandat dans l'attente que quelque chose de nouveau sur
le... Le conseiller général, c'est un élu de proximité. C'est-à-dire que les gens... c'est comme ça que je le conçois, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, moi, sur le terrain. En tout cas, avec mes amis qui sont conseillers généraux sortants, ils font des permanences, ils sont à l'écoute de la population, donc ils ont un rôle de proximité. Non, je crois qu'il ne faut pas le négliger. Hein. Mais c'est vrai que, bon, c'est une élection un peu isolée et qui n'est pas, n'étant pas couplée à une autre...
Les gens vont finalement voter pour le parti ou pour son conseiller général ?
Moi, j'ai regardé les sondages au niveau national. 75% des gens se déterminent pour les enjeux locaux.
Hein. D'accord, pour les enjeux locaux. Ouais. Alors, l'UMP, justement, a lancé la campagne sur un thème un petit peu original dans la région, mais on est très originaux dans la région, c'est celui de l'honnêteté.
Je sens une pointe d'ironie dans votre propos.
Et à Aubagne, l'honnêteté, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare. Vous avez vous-même bataillé longuement pour faire condamner certaines personnes pour cause de fraude, quelque chose d'assez rare quand même, fraude électorale. Un mot sur ce qui se passe et le séisme qui s'est emparé de l'agglomération d'Aubagne.
Bah écoutez, moi d'abord, ma première réflexion, c'est que je suis un peu catastrophé de voir tout ça, parce que ça retombe toujours sur la classe politique. C'est vrai que j'ai vécu, moi, une période, c'était en 98, où, étant candidat à l'élection législative, on m'avait volé au coin du bois, tout simplement. On m'avait déclaré, comme vous l'avez dit dans mon portrait, battu de 20 voix alors que j'avais gagné. 4 mois après, j'ai réussi à faire casser cette élection par le Conseil constitutionnel et j'ai gagné avec plus de 56% des voix. Mais j'ai réussi, je n'ai jamais baissé les bras.
Vous avez bataillé 12 ans quand même.
12 ans, absolument.
On parlait tout à l'heure de la lenteur de la justice.
12 ans, oui, mais pourquoi ? C'est pas la faute de la justice.
C'est la faute des moyens.
Non, pas du tout. C'est qu'ils ont pris tous les recours possibles. Ils ont été plusieurs fois en cour d'appel, plusieurs fois en cour de cassation, de façon à ralentir le chemin de la justice. Là, c'est l'inverse. C'est le Parti communiste qui a fait ça. Mais je n'ai jamais baissé les bras et j'ai réussi à les faire condamner. C'est tout récemment, puisque c'était en septembre 2010 en cour d'appel, où là, définitivement, ils ont été condamnés pour fraude électorale. C'est catastrophique pour l'image de la vie politique. Qu'on arrive à tourner... Enfin, quand on est un parti comme le Parti communiste qui se dit proche des gens, qui se dit proche des valeurs de démocratie, on peut en douter. Tordre le scrutin, enfin tordre la démocratie à ce point, changer le résultat des élections, c'est catastrophique. Alors maintenant, je fais le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Deux, trois mois après, on replonge finalement, je dirais presque avec les mêmes, dans une histoire abracadabrantesque. Hein. Chacun l'a vu. Bon, faut laisser faire la justice, bien évidemment. Le juge Duchesne s'est emparé du dossier du frère Guérini. Il y a des connexions, semble-t-il, avec la communauté d'Aglo d'Aubagne. Monsieur Belviseau vient de démissionner de tous ses mandats.
Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Belviseau, sans langue de bois, Bernard de Flessel?
Moi, j'ai pas d'acrimonie par rapport aux gens. Je veux dire, je tape pas un homme qui est à terre, même si vraiment j'ai fulminé parce que c'était lui qui était candidat contre moi.
Enfin, vous êtes élu, vous votez les lois.
Mais quand même, je dirais, le système est. C'est la remarque que je fais. Le système est à bout de souffle. Je crois que c'est une lente descente aux enfers du système. Instauré par le Parti communiste dans l'est du département.
Vous voulez dire que tous les communistes sont plus ou moins complices, les communistes aubanais, M. Daniel Fontaine, maire d'Aubagne?
J'en sais rien, c'est la justice qui le déterminera.
Vous le supposez?
Mais enfin, je veux dire, à chaque fois...
Vous le supposez, Bernard de Flessel?
À chaque fois, moi je constate, à chaque fois, aussitôt qu'il y a, quand il y a eu la fraude électorale, il y a eu des lettres partout en soutenant, c'était faux, etc. On a vu que la justice a tranché. Bon, là c'est pareil, au début, ils ont commencé à protester en disant que c'était un coup politique, que le pauvre Alain Belviseau a été visé, etc. Puis là, ils viennent de le lâcher en race campagne. Je fais quand même référence à ce qu'ils viennent de faire. Un, ils viennent de se porter partie civile, à la demande de l'opposition aubagnaise d'ailleurs. Heureusement que les élus de l'opposition ont poussé depuis des jours et des jours en disant « mais il faut que la communauté d'Aglo se porte partie civile ». Pourquoi se porter partie civile? Parce qu'on a accès au dossier et qu'on peut défendre les intérêts de la communauté d'Aglo, c'est-à-dire les intérêts des habitants d'Aubagne et des 11 autres communes. Hein, c'est ça qui compte. S'il y a eu fraude, s'il y a eu malversation... c'est au détriment, bien sûr, de nos concitoyens, c'est au détriment de leurs impôts. Et donc, c'était logique que la communauté d'Aglo, l'agglomération, se porte en tant qu'institution partie civile. Ils ne voulaient pas le faire. Et puis là, ils viennent de le faire. Bon, ça veut dire qu'il y a eu des pressions qui ont été faites vraisemblablement sur M. Belviseau. Est-ce qu'ils essayent de sauver le système en disant, ben voilà, le bouc émissaire, c'est lui, du coup, le gars démissionne, et puis on va s'en tirer, on va peut-être sortir la tête de l'eau, j'en sais rien. C'est la justice qui le déterminera. Moi, vous savez, je veux dire, j'ai une réaction assez simple, elle s'approche un peu de celle de Jean-Claude Gaudin, qui dit, on ne fait pas de politique, je dirais, on mélange pas les affaires avec la politique. Hein. Il y a les prétoires. Et ça, c'est la justice. Et puis, il y a le débat politique
alors,
sur les idées.
Alors, justement...
Mais quand il y a interaction, là, il faut quand même s'élever et prendre des positions.
Justement, fermes. Parce que l'affaire, la mise en examen d'Alain Belviseau s'intègre dans l'enquête, une enquête plus générale touchant Alexandre Guérini et aujourd'hui, semble-t-il, du moins politiquement, pour l'instant aussi, Jean-Noël Guérini.
Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône.
Auquel un certain nombre de personnalités, à droite, mais aujourd'hui même à gauche, on a entendu Laurent Jvinesky, par exemple, dire il serait bon que Jean-Noël Guérini ne soit pas candidat à sa succession à la tête du Conseil général. Est-ce que vous, par exemple, est-ce que vous partagez ce point de vue On a l'impression qu'une partie de la droite, Jean-Claude Gaudin notamment, est un peu en retrait, un peu frileux.
Ne nous dites pas que laissons la justice aller suivre son cours, parce que c'est un peu...
Il faut le dire quand même, mais ça ne suffit pas, je veux dire.
Oui,
à
voilà.
Un moment, il faut s'élever. Je veux dire, moi, c'est ce que je fais dans un dossier... dans une situation que je connais bien, celle d'Aubagne. Je n'ai jamais baissé les bras, puisque vous le faisiez allusion au fait que pendant 12 ans, j'ai jamais lâché, j'ai voulu les faire condamner parce que c'était véritablement honteux. Je suis le prototype, moi, de celui qui s'est toujours élevé contre ces genres de pratiques. Et je continue à le faire, d'ailleurs. Sur l'affaire
Guérini,
je connais un peu moins les tenants et les aboutissants. C'est plutôt les Marseillais, c'est plutôt Renaud Muselier en particulier.
C'est même les habitants du département.
Oui, et aussi les habitants du département qui s'élèvent à cela. Alors, Laurence Wisniewski, que je connais bien, a fait des déclarations assez fermes, assez fortes. Alors, elle est magistrate de formation, vous le savez, ça a été une grande magistrate. Elle est procureur adjoint à Paris, si mes souvenirs sont bons. Et donc, je ne sais pas si elle a des informations, passez-moi l'expression, de première main, j'en sais rien. Elle dit que non, je ne peux pas le juger. Mais c'est vrai qu'elle a fait une déclaration assez forte sur ce sujet-là.
Vous la partagez ?
Oui, plutôt. Renaud Muselier, on a dit « Oh, Muselier, on fait trop ». Bah, c'est quand même celui qui, le premier, a dénoncé ce système. Et donc, alors maintenant, il faut, alors vous allez dire, de Flessel à langue de bois. Non, j'ai pas la langue de bois. Non, pas du tout. Il faut que la justice passe. Elle est en train de passer.
Alors concrètement, vous appelez à la démission de Jean-Noël Guérini ?
À la démission, non. Enfin, à la démission, je veux dire, est-ce que c'est à lui de prendre ses responsabilités ? Lui dit aujourd'hui, moi, je ne suis pas touché par cette affaire, c'est mon frère.
Enfin, les dernières écoutes montrent qu'il est quand même.
Mais il y a des écoutes qui interpellent et qui montrent que finalement, les choses sont peut-être pas aussi simples que ça.
Vous appelez à la démission de Jean-Noël Guérini ?
C'est une question de fond. La démission, non, mais je veux que la justice passe et je veux que ça soit la justice qui stoppe ces dérives qui sont des dérives qui semblent...
Pour se défendre, sans mettre en cause la présomption d'innocence, mais pour se défendre, pour s'expliquer, pour protéger aussi l'institution qu'il dirige. Hein? Est-ce que Jean-Noël Guérini devrait prendre du recul ?
Oui, mais c'est à lui de prendre cette responsabilité.
Mais vous ne lui demandez pas explicitement de le faire ?
Non, je ne le demande pas parce que... comment dire ? Je ne voudrais pas être mal compris. Je pense que les hommes... Regardez Belviso, par exemple. Belviso a pris sa décision. Bon, alors, manifestement, il a dû
être... Il est mis en examen, c'est pas la
chose. Il a dû être... Voilà. M. Guérini n'a pas été mis en examen, que je sache. C'est-à-dire que la justice, aujourd'hui, ne l'a absolument pas entendu. Non seulement ne l'a pas mis en examen, mais en plus, ne l'a pas entendu. Il n'a jamais été convoqué chez le juge.
Alors, quelqu'un qui a été mis en garde à vue, comme Eugène Caselli, par exemple, qui sort...
Il est sorti...
Espérer d'un de ses élus que, durant un mandat, il n'aille pas faire un tour chez le juge. Ça peut s'espérer.
C'est vrai, mais vous pouvez être convoqué chez le juge et puis ressortir tout à fait libre, sans aucune charge. C'est le cas de M. Caselli.
Oui, pour l'instant.
Donc, vous ne dites pas
l'image de cette communauté urbaine.
Il ne faut pas non plus être extrémiste de ce point de vue-là. Il y a plusieurs catégories. Vous avez des gens qui n'ont jamais été convoqués par la justice, jamais entendus par le juge. Vous avez d'autres gens qui ont été entendus par le juge et qui sont sortis libres. Et vous avez des gens qui ont été entendus par le juge, qui ont été mis en examen et qui ont démissionné. Il y a des phases différentes, si vous voulez, en fonction des individus. Donc voilà, ça, ce sont les faits.
Alors, à gauche, inversement, on reproche, en particulier avec ce choix du slogan, le choix de l'honnêteté à l'UMP, d'instrumentaliser ces affaires pour ne pas parler du fond, et en particulier d'une réforme territoriale, finalement, tordant le cou à l'institution de proximité que sont les conseils généraux. Est-ce le cas ? Est-ce que la démocratie de proximité est en jeu ?
Je vais vous dire, la démocratie de proximité.
Vous qui avez siégé très très longtemps au conseil régional qui êtes attaché à ce mandat, est-ce qu'on n'est pas en train de voir disparaître des outils de démocratie
On
de
va prendre les choses dans l'ordre, mais la démocratie de proximité, elle est mise en danger par les affaires, parce que sur les 550 000 élus en France, soit maires, conseillers municipaux, conseillers généraux, régionaux, députés, sénateurs, etc., 99,99% sont des gens honnêtes et prennent, je dirais, l'intérêt général à bras-le-corps. Et puis, il y a des affaires. Et c'est ces affaires-là qui rejaillissent sur la classe politique. Donc, il faut qu'on fasse très attention. C'est ça qui torpille la démocratie
de
proximité.
Si ces institutions n'ont plus les moyens de mener leur politique...
D'une réforme qui a été votée par le Parlement. Que je sache, le Parlement est souverain quand même dans notre pays. C'est lui qui a la légitimité du peuple. Bon, et donc c'est une loi qui a été votée en bonne et due forme. Donc ne confondons pas les choses. Hein, c'est pas
la gauche,
c'est pas
dit une loi. On va la remettre en cause si on est élu.
La gauche peut dire ce qu'elle veut. Elle peut la remettre en cause. Ça, c'est son droit le plus strict. Qu'elle le mette dans son programme électoral et puis elle le fera si elle gagne. Ou elle le fera pas, j'en sais rien. Mais ça, c'est d'une autre nature. Non, on va pas comparer les choses. Là, c'est une loi qui a été votée en bonne et due forme par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et que je sache. Ces deux institutions ont toute légitimité.
Bon, pour être précis, en 2014, fin des conseils généraux et des conseils régionaux, naissance des conseillers territoriaux. Oui. Il y avait, je crois, 359 élus, il n'y en aura plus que 224.
Quelle est l'idée?
D'ailleurs, ça permettra de cumuler en bonne conscience, Bernard de Flessel.
Quelle est l'idée de cette réforme, si vous me donnez 30 secondes? Qu'est-ce qu'on constate? La décentralisation est une chose merveilleuse. C'est un progrès, ça irrigue le territoire national. Nous sommes un État centralisé depuis 15 siècles. Hein, le pouvoir jacobin, comme on l'appelle, détenu à Paris, je dirais à une histoire qui est intimement liée avec l'histoire de la France et qui dure depuis 15 siècles. Donc on est un pays extraordinairement centralisé, rien à voir avec l'Allemagne, rien à voir avec l'Espagne, l'Italie, etc. Bon. Donc l'idée de la décentralisation, qui avait été lancée d'ailleurs par Gaston Defferre, c'est la première loi sur la décentralisation, a donné de la respiration, si vous voulez, à nos territoires et a fait en sorte que le pouvoir se rapproche un peu de nos concitoyens, c'est ce qu'ils demandent. Bon. Donc c'est une très bonne chose, la décentralisation. Mais on s'aperçoit aussi qu'elle a quelques carences. Et en particulier, j'en vois quelques-unes. La première, c'est que la superposition des couches administratives, politico-administratives, fait que le citoyen ne s'y retrouve plus. Alors, on a la commune, on a ensuite la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine, ensuite on a le conseil général, on a le conseil régional, on a l'État, on a l'Europe. Bref, je dirais à tous les guichets, il y a pléthore de fonctions publiques, il y a pléthore d'impôts, etc. Donc il est bon, me semble-t-il, de revisiter un peu ce système, et l'idée de dire conseil général, conseil régional, ou conseiller général, conseiller régional ne pourrait faire qu'un, est plutôt une bonne idée. Qu'est-ce qui va se passer? On va supprimer, sur les 6000 élus en France qui sont conseillers généraux et conseillers régionaux, on va en supprimer un petit peu moins de la moitié. Il va en rester 3500. Donc on va faire des économies d'abord. Et deuxièmement, on va avoir plus qu'un élu qui siégera en mode départemental une fois et en mode régional une autre fois. Donc je veux dire, et l'intérêt pour nos institutions, c'est qu'il y aura moins de financements croisés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Toutes les collectivités veulent aller sur tout. Elles ont des compétences de droit qui sont données par la loi. On sait que par exemple, les régions, elles construisent des lycées, c'est la formation professionnelle, c'est l'apprentissage, c'est les transports. On sait que le conseil général, c'est les questions sociales essentiellement, c'est la construction des collèges, etc. Bon. Et on s'aperçoit qu'elles sortent de leurs compétences et qu'elles prennent des compétences qui n'étaient pas les leurs. Et donc là, on se retrouve avec des financements croisés. Donc les maires s'arrachent les cheveux, il faut qu'ils aillent voir tous les guichets, ils tapent à la porte du conseil général, à la porte du conseil régional, et on s'aperçoit que, grosso modo, c'est les commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat qui ont fait une étude là-dessus et qui montrent qu'il y a 10 à 15% de financements croisés, donc une perte en ligne, si vous voulez.
Les milieux associatifs, culturels, sportifs sont très inquiets, se disent oui, on risque d'être les dindons de la farce de cette histoire, il risque d'y avoir à nouveau des réductions d'effectifs.
Puisque ça a été pris en compte, et sur les domaines culturels, sur le domaine sportif en particulier, il y aura un chef de file qui sera mandaté pour les aider. Et donc pour l'instant, ça n'a pas bougé, et donc il pourra y avoir aide des collectivités dans ce domaine-là.
On a vu donc réforme de la RGPP également.
Dernière chose, moi on dit l'État doit faire des efforts. L'État fait des efforts budgétaires, on supprime un peu, on l'a dit tout à l'heure, un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Mais pendant ce temps-là, les collectivités territoriales et locales ont embauché à tout va. L'augmentation, embauches de ce point de vue-là. Alors, on ne peut pas dire à l'État, il faut faire attention, il faut réduire vos budgets, vos déficits. Et puis, pendant ce temps-là, voir les collectivités locales et territoriales se comporter comme des baronnies.
Auxquelles on demande quand même d'assumer des prérogatives que l'État, dont l'État se dessaisit.
Quelques-unes. Et les présidents, en particulier de conseils régionaux socialistes, ont beau jeu de dire « Ah, mais l'État se défausse, donc c'est nous qui prenons... » les responsabilités. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut des moyens, etc. etc. Oui, attendez, quand on fait le bilan, on s'aperçoit que tout ça est bien exagéré.
Quelle valeur donner à toutes ces consultations qu'organisent ces maires, notamment ceux d'Aubagne, ceux de l'agglo d'Aubagne, les 12 maires de l'agglomération d'Aubagne qui ont organisé une consultation? Qu'est-ce que vous leur dites? Vous dites la démocratie de proximité, comme disait Michel Guéraud, finalement, on passe au-dessus. C'est le Parlement qui décide?
Non, je crois simplement qu'ils font en particulier de la com'. Je veux dire, regardez le dernier...
Vous avez quand même 12 maires, et ce n'est pas les seuls, le local n'est pas unique, ça se passe partout en France.
Comme par hasard, les 12 maires sont tous de gauche, hein, il n'y en a pas un de droite, dans la communauté d'agglo d'Aubagne, ils sont tous de gauche. Et le dernier référendum, entre guillemets, local, c'était quoi? C'était dire on ne veut pas être absorbé par Marseille. Mais Marseille n'a jamais voulu absorber Aubagne ni les autres. Donc, quand vous faites un référendum comme ça en disant est-ce qu'on garde nos racines, nos identités, etc., 95% des gens répondent oui, bien sûr. Moi, le premier. Enfin, tout ça est absurde.
Enfin, je rappelle que le maire d'Aix-en-Provence, par exemple.
On nous explique aussi après que.
Elle n'est pas de gauche et elle est contre toute rapproche ou toute création de grandes agglomérations.
Ça, c'est autre chose. C'est l'éternelle rivalité entre Aix et Marseille, vous le savez bien.
Non, c'est surtout que les maires veulent continuer à gérer leur plan local d'urbanisme.
Oui, il y a ça aussi également. Mais je veux dire, il faut qu'on regarde un peu, projetons-nous dans l'avenir, c'est le rôle aussi de la classe politique. Si on est le nez sur la vitre, si on ne fait que du quotidien, c'est important le quotidien, il faut répondre aux aspirations de nos concitoyens, mais il faut se projeter vers l'avenir. Quand on regarde toutes les grandes métropoles qui émergent aujourd'hui dans l'Europe du Sud, quand on regarde Barcelone, quand on regarde Gênes, quand on regarde Milan, et si on monte un peu plus haut, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que finalement nos mairies, par la superposition des couches administratives, politico-administratives, comme je le disais tout à l'heure, ont peu de compétences. Nous, avant de prendre des décisions, il y a la mairie, il y a ensuite la communauté urbaine, il y a le conseil général, le conseil régional. Vous allez à Barcelone, ils ont une entité, une autonomie qui est beaucoup plus forte. Et donc faisons attention de ne pas rater, je dirais, ces métropoles en devenir qui rayonnent et qui sont connues au niveau européen ou au niveau mondial.
Même si elles ne tiennent pas compte des particularismes des territoires, hein.
Mais partout, il y a des particularismes des territoires. Vous ne croyez pas qu'en Catalogne, il n'y a pas des particularismes de territoire? Vous ne croyez pas qu'à Gênes ou à Milan, il y a des particularismes? Un peu partout. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on resserre nos dispositifs et qu'on affiche, si vous voulez. Qu'est-ce qui est connu à l'extérieur de l'Europe? Marseille est un peu connu, voilà. Pas énormément, mais un peu connu. Bon, je veux dire, il faut qu'on rayonne. On est dans un monde ouvert, on est dans un monde qui bouge, et donc il faut qu'on rayonne. Donc l'idée de la métropolisation, ça ne veut pas dire tout le monde, le petit doigt sur la couture du pantalon en régimenté. Ça veut dire simplement qu'il faut qu'on ait une aire d'attraction qui soit une aire importante. Et moi, je m'aperçois, quand on se déplace en Europe, qu'il y a l'émergence de très grandes métropoles, et que ça, il faut le prendre en compte.
On voit sur le dossier de Marseille-Provence européenne de la culture que ce n'est pas évident d'avancer. Ouais. Toulon, qui devait dans le projet, vient de se retirrer.
Mais pourquoi? Parce que ce sont nos spécificités et on est frileux. Voilà. Et c'est un peu dommage.
Un mot peut-être on reste sur les collectivités, notamment le conseil régional. Frappé lui aussi par les affaires. Toute la gauche semble en émoi. Michel Vauzelle, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces affaires du conseil régional?
Écoutez,
700 000 euros de subventions auraient été détournées sur d'associations fictives.
Au profit d'associations fictives, tout à fait. Oui. C'est une affaire qui a maintenant 2 ans ou 2 ans et demi, je ne sais plus exactement. On a découvert des associations fictives.
Donc... A déjà fait une victime, la vice-présidente de la ville, Sylvie Andrieux, qui a démissionné.
Oui, et puis qui a été mis en examen aussi par le juge. Donc c'est une affaire aussi qui était très préoccupante. Alors certains, la main sur le cœur, nous expliquent qu'ils ne sont pour rien dans cette affaire. Écoutez, là aussi, j'espère qu'on ira au bout. En tout cas, nous, on ne lâchera rien. Je crois qu'il faut, ce que demandent nos concitoyens aujourd'hui, il faut de la transparence. Il faut qu'on arrête cette langue de bois. Il faut qu'on dise les choses. Il faut qu'on soit pas nu et cru devant nos concitoyens, mais au moins qu'on montre l'exemple. C'est la moindre des choses. Il faut faire la ligne droite, comme j'ai l'habitude de dire.
Là-dessus, vous impliquez pas le président Michel Vauzelle? Le directeur de cabinet a été mis en examen.
Bah, écoutez,
le directeur des services. Monsieur
Vauzelle nous explique qu'il est pour rien dans cette affaire, qu'il n'a rien vu, et qu'en plus, tout repose sur Madame Andrieux. On peut peut-être en douter.
Finalement, observer mieux que ça le mode d'attribution des subventions, c'est la solution?
Ah bah, très, très clairement, hein, je veux dire, c'est la moindre des choses, c'est de l'argent public. L'argent public doit être, on a dit d'ailleurs tout au long de l'émission qu'il était devenu rare, qu'il était difficile, je dirais, d'augmenter les impôts, de diminuer les dettes. Et donc, encore une fois, à juste raison, il faut qu'on fasse très très attention. Et donc, évidemment, il faut... serrer les critères et faire en sorte que ces subventions soient données à bon escient.
Serrer les critères, une association vient de pâtir un petit peu de ce serrage de vis, c'est La Pensée de Midi,
oui,
dirigée par Thierry Fabre. Le conseil régional dit qu'il avait trop subventionné, qu'elle n'a pas évolué.
Ouais.
Vous dites...
Oui, je pense que c'est une erreur. La Pensée du Midi, c'est vrai, c'est une entre guillemets une institution finalement, et lui couper les subventions comme ça a été fait sans vraiment justifier les choses me semble un peu cavalier. C'est un peu dommage, c'est un pan finalement de notre culture et puis d'une liberté de pensée qui.
Avec votre réserve de parlementaire, vous pouvez prendre la relève.
Non, c'est compliqué, hein, parce que on ne peut pas se substituer à une institution telle que le Conseil régional. Hein,
vous le faites bien pour les caméras vidéosurveillance, ah,
oui,
pourquoi pas pour la culture.
Non, mais c'est pas les moyens, on n'a pas les moyens du Conseil régional.
Bernard de Flesse, je vous remercie. Allez, on se retrouve le mois prochain avec un tout autre invité. Bye.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.